Les podcasts de l'Institut de France. L'entretien de la semaine.
Depuis plus de deux siècles, le Panthéon, situé sur la montagne Sainte-Geneviève à Paris, tient une place à part dans le paysage mémoriel français. Ancienne église devenue temple républicain, ce monument, ce lieu de mémoire, a traversé les régimes et les débats. Et depuis la fin des années 80, on a pu constater une accélération du rythme des panthéonisations. Alors comment expliquer cette évolution et quels défis attendent ce monument en 2025? Comment se préparent ces grandes cérémonies qui marquent notre mémoire collective? Pour en parler, nous avons la grande chance d'accueillir l'administratrice de ce lieu, Barbara Wolfer. Un grand merci d'être avec nous et bonjour.
Bonjour.
Alors Barbara Wolfer, vous êtes l'administratrice du Panthéon depuis un peu plus de deux ans maintenant, depuis octobre 2022. Administrer un tel lieu ne signifie pas tout décider, notamment en ce qui concerne les entrées, les panthéonisations. La décision de qui rentre dans ce monument revient à quelqu'un d'autre.
Tout à fait. La décision d'une entrée au Panthéon revient au président de la République, sous la Ve République. Donc nous sommes en régime présidentiel. Donc
depuis 1958.
Exactement. La décision revient au président. Ça n'a évidemment pas toujours été le cas dans l'histoire, puisque, pour résumer, en régime parlementaire, c'est une décision du corps législatif, du Parlement. Et si on remonte aux origines du Panthéon, donc au moment de la Révolution, en 1791, c'est bien donc l'Assemblée qui a installé ce Panthéon à l'occasion de la mort de Mirabeau en 1791.
Alors, la fonction du Panthéon a beaucoup changé selon les régimes politiques en place au cours de l'histoire. Je l'ai dit dans l'introduction, l'édifice a oscillé pendant très longtemps entre église catholique et temple laïque. Ce sont les funérailles de Victor Hugo en 1885 qui vont sceller le sort du Panthéon. Depuis cette date, en tout cas, sa fonction est restée inchangée, temple des grands hommes et grandes femmes de la nation.
Tout à fait, on a une histoire du Panthéon qui est tout à fait fascinante et mouvementée. Donc je rappelais cette origine au moment de la Révolution. On a ce lieu, l'église Sainte-Geneviève, qui vient juste d'être construite, dont les décors sont en train de se terminer et pour laquelle les révolutionnaires s'interrogent sur sa destination. Et donc à la mort de Mirabeau, ça devient le Panthéon, le lieu de la reconnaissance des grands hommes par la patrie, comme l'indique si bien son inscription au fronton. Et puis il y a cette période révolutionnaire du début, et puis tout au long du 19e siècle, avec l'évolution des régimes politiques, on a un monument qui va connaître aussi une oscillation, un peu à l'image de son pendule, une oscillation permanente qui va justement épouser ces changements de régime. Évidemment, la Restauration, ça redevient une église. Au moment de la monarchie de Juillet, ça redevient un Panthéon. En tout cas, voilà une oscillation. Et puis, cette date clé, 1885, l'entrée au Panthéon de Victor Hugo, évidemment, une cérémonie extraordinaire avec une foule de Parisiens dans les rues de Paris, donc très grand événement, et qui scelle cette vocation républicaine du Panthéon à cette date, et donc depuis...
Qui n'a pas changé.
Exactement.
Alors, on l'a dit, c'est depuis 58 que c'est le président de la République qui annonce et choisit les hommes et les femmes qui sont panthéonisés. Parmi les transferts les plus célèbres, il y a bien sûr les cendres du résistant Jean Moulin par De Gaulle en 64, avec ce célèbre discours prononcé par André Malraux, qui était alors ministre des Affaires culturelles. Donc cela s'est passé en 1964. Mais en réalité, à cette date, le Panthéon, ce lieu de mémoire, n'a pas vraiment encore cette place centrale dans la vie républicaine. Il est peu entretenu, déserté. Pourquoi ce lieu a-t-il été délaissé pendant cette période-là? Comment vous l'expliquez?
Il y a vraiment une question d'usage, évidemment, du lieu, de la manière, alors sous la Ve République, dont un président se saisit de ce lieu. Et on voit bien qu'il y a une époque où, effectivement, il est peu utilisé, il est dans un état qui nécessite aussi des restaurations, puisque c'est un monument, alors évidemment, somptueux, magnifique, qui paraît très très solide, mais qui a aussi ses fragilités à sa structure, et donc évidemment qu'il faut entretenir régulièrement. Et donc, j'allais dire, c'est presque l'usage. Alors, il y a évidemment cette date clé de 1964 et qui est restée dans les mémoires à travers le discours d'André Malraux. Et donc, on a des périodes, et notamment, tout le début de la Ve République, mais même après, où le Panthéon, voilà, est peu utilisé, et encore une fois, c'est à la discrétion du président de la République. Et puis, évidemment, ces questions mémorielles aussi qui prennent de l'importance. Et puis, on a François Mitterrand qui va à la fois faire ce geste symbolique en 1981, au moment de son investiture, de venir au Panthéon, de déposer des roses sur les tombes de trois personnalités importantes pour lui. On peut les rappeler, hein, Jean Jaurès, Victor Schoelcher et Jean Moulin, justement. Et puis ensuite, un rythme de panthéonisation qui commence à s'accélérer à partir de la fin des années 80, mais qui ensuite pourra aussi être freiné, puisqu'on a aussi des présidents qui n'ont pas utilisé ce panthéon. Puis récemment aussi un rythme plus important de panthéonisation.
Et je voulais revenir sur cette période-là, clé. Donc François Mitterrand est élu depuis 81. Il choisit au moment de cette élection de se rendre au Panthéon comme lieu symbolique. Et cette accélération du rythme des panthéonisations va débuter plutôt à la fin des années 80, au moment du deuxième mandat de François Mitterrand. Il y a une vingtaine de panthéonisations en 45 ans, enfin depuis les années 80, 90 qui se sont passées, contre 12 entre 1900 et 1987. Ce rythme-là, ce nouveau rythme qu'on a depuis à peu près 45 ans, il a dépassé toutes les époques précédentes ?
C'est toujours difficile de compter, de manière générale, au Panthéon. Il faut toujours faire attention avec la question des chiffres, parce que qu'est-ce qu'on compte, par exemple ? Parce qu'il faut rappeler aussi que ces panthéonisations, elles peuvent prendre des formes différentes. Il y a évidemment ce qu'on appelle la translation des cendres, quand le corps de la personne honorée entre véritablement au Panthéon et dans la crypte. Mais on peut aussi avoir, et on l'a aussi davantage ces dernières années, un cénotaphe. C'est-à-dire que le corps va rester à l'endroit où il est inhumé,
Exactement,
le corps est absent, ou alors le corps n'a pas été retrouvé, par exemple. Et donc, on peut avoir un cénotaphe, ou alors on peut aussi avoir une inscription du nom. Parce qu'évidemment, cette question de la reconnaissance, elle passe par la nomination aussi. Donc, le Panthéon, c'est vraiment un lieu de la nomination. Le nom qui s'inscrit sur une tombe, sur un mur. Et donc, au Panthéon, on a, et c'est très frappant évidemment quand on le visite, toute une série d'inscriptions dans la nef déjà, et qui parfois peuvent être en nombre très important. Par exemple, les écrivains combattants qui sont morts pour la France de la Première Guerre mondiale et de la Deuxième Guerre mondiale sont inscrits sur les murs de la nef du Panthéon, et donc ils sont en nombre très important, plusieurs centaines. On a aussi une inscription qui honore les Justes de France, et ils sont plusieurs milliers. Donc la translation des cendres a toujours une dimension, évidemment, une portée symbolique plus forte, puisqu'il y a aussi ce rapport au corps, qui reste quelque chose de très important, parce qu'on nous demande souvent, les visiteurs nous demandent, mais est-ce qu'ils sont vraiment là ? Cette question, elle est très importante. Mais donc, dans la comptabilisation, donc ce que vous avez comptabilisé, évidemment, c'est notamment tout ce qui concerne cette translation des corps ou des cénotaphes. Mais effectivement, de ce point de vue-là, on peut dire qu'il y a un nombre très important. Ça veut dire que ces enjeux mémoriels sont importants. Alors, ils sont importants à deux titres, et ça a été toujours le cas dans l'histoire du Panthéon. Évidemment, ces grands hommes et ces grandes femmes, ce sont des exemples pour nous, des sources d'inspiration. Ils se sont élevés pour défendre les valeurs républicaines. Ils ont eu un engagement à travers des écrits, des paroles. Donc il y a cette dimension très presque pédagogique des exemples à travers leur mérite, à travers des parcours de vie, à travers un sacrifice parfois aussi. Et puis ce rôle finalement de rassemblement, d'unité autour de ces figures. C'est la nation qui se rassemble autour de ces figures.
Il n'y a pas que le rythme des panthéonisations qui a changé, la scénographie des cérémonies a aussi évolué au fil des années, des décennies. Sous la IVe République, par exemple, c'était pour beaucoup un rite funéraire, enfin avec toute une scénographie autour du deuil. Aujourd'hui, le rituel des cérémonies a changé, comment il est plus dépouillé, comment se passe cette scénographie des cérémonies ?
Ça reste une cérémonie très importante, parce que donc, si on réfléchit un petit peu aux grandes cérémonies républicaines, les panthéonisations, ça reste un moment très fort, très important. Évidemment, en termes de scénographie, c'est un petit peu plus dépouillé, parce qu'il a pu y avoir, dans l'histoire, et vous le citiez, on peut penser aussi à la Troisième République, hein, où on a voilà, des grands décors qui sont installés, des colonnes, où il y a tout ça. Il y a eu aussi dans l'histoire, et ça commence dès la Révolution, des cortèges dans toute la ville. Quand on pense au cortège pour Voltaire, par exemple, pour Rousseau, évidemment, on a une foule qui vient assister à ça. Ce qui a changé par rapport à ça, c'est évidemment la retransmission. À l'époque, on est dans la rue. Aujourd'hui, évidemment, on peut suivre ça à la télévision, sur un écran. Donc, on a cette dimension qui, évidemment, transforme un petit peu le rapport à ces cérémonies. Et puis, on travaille davantage aussi autour des images.
Vous parlez de scénographie plus imagée. Il n'y a pas de temps mort avec aussi l'arrivée des médias. Aujourd'hui, la cérémonie est rythmée par plusieurs séquences qui se succèdent les unes les autres.
Tout à fait. Cette succession, alors, elle peut varier à chaque fois. Il y a quelques moments qui reviennent. Il y a évidemment un rituel très important, la remontée de la rue Soufflot, le récit, l'entrée proprement dite, hein, l'ouverture des grandes portes du Panthéon qui ne s'ouvrent quasiment qu'à cette occasion-là.
Et donc, les grands bronzes.
Exactement, les grands bronzes, le franchissement de ces portes, donc une dimension symbolique extrêmement importante. Et puis évidemment le discours du président de la République ou de la personne qui est amenée à prononcer ce discours. Vous citiez André Malraux tout à l'heure. Mais donc, le discours qui est évidemment un moment très important de la cérémonie.
Comment vous voyez la place du Panthéon dans le paysage mémoriel en France par rapport à d'autres lieux de mémoire, par exemple ?
C'est un lieu très unique et très exceptionnel. Dans l'histoire, il a cette place, cette dimension nationale, cette dimension de la reconnaissance de la grandeur. Hein, et c'est vraiment ça, avec cette idée de sélection. Et comment on s'y rassemble, on s'y retrouve. Évidemment, dans les choix, on parlait d'un choix présidentiel, mais c'est, c'est-à-dire cette question d'une personnalité qui peut faire consensus, même si dans l'histoire, il y a aussi eu beaucoup de débats et de controverses, mais cette dimension d'une personnalité ou de plusieurs personnalités qui font consensus, qui, à un moment donné, entrent en résonance avec les enjeux contemporains. C'est une dimension très importante également. Donc, tous ces aspects rendent ces cérémonies, extrêmement importantes. Et ce Panthéon, alors, qu'évidemment, tout le monde connaît, hein, le Panthéon, l'entrée dans le langage courant, on parle de son Panthéon personnel, donc c'est un terme, si on prête attention, le terme est utilisé de manière extrêmement importante. L'enjeu reste quand même de bien faire comprendre le lieu et de faire connaître les personnalités qui y reposent ou qui sont honorées et où cette histoire qu'on rappelait tout à l'heure peut parfois aussi brouiller un petit peu la lecture, puisqu'on a aussi cette période napoléonienne où là, on a un nombre très important. Vous parliez du rythme, mais dans l'histoire, on a aussi une période.
C'est vrai, sous Napoléon, avec beaucoup de militaires qui sont
rentrés. Une quarantaine de personnalités en moins de 10 ans, donc évidemment, c'est plutôt des personnalités civiles au Panthéon, mais un nombre très important. On met cette période un petit peu à part dans l'histoire du Panthéon, puisque c'est une époque où la nef avait été rendue à l'Église catholique et la crypte avait été gardée avec une fonction mémorielle, mais donc c'est une période un petit peu particulière.
Mais je crois que la question s'était posée de retirer ces personnes, ces militaires qui sont rentrés sous Napoléon. Aujourd'hui, il n'y a plus de débat, ils vont rester au Panthéon.
Alors, dans l'histoire du Panthéon, il y a eu cette histoire d'entrée-sortie au moment de la Révolution. Aujourd'hui, c'est l'histoire, on se réconcilie avec l'histoire. Par contre, évidemment, il faut faire comprendre pour ne pas trop brouiller le message. Mais il n'y a pas d'idée aujourd'hui de les faire sortir du Panthéon.
Ouais. Vous parliez à l'instant de consensus. Il sert à ça, le Panthéon, aujourd'hui, à cimenter un consensus national ?
C'est vraiment un rôle majeur du Panthéon. C'est ce rôle, et vraiment depuis l'origine, que c'est un hommage solennel de la nation, donc la nation qui se rassemble autour de ces figures à travers lesquelles elle peut se reconnaître, qui peuvent être une source d'inspiration. Donc cette dimension vraiment d'exemple, de pédagogie. Donc c'est aussi évidemment extrêmement important pour nous d'accueillir des scolaires.
Alors, vous en avez parlé tout à l'heure, la dernière entrée en date au Panthéon a eu lieu en 2024 avec Missak Manouchian, résistant communiste qui était accompagné de sa femme Mélinée. Racontez-nous un peu comment se prépare une cérémonie officielle. C'est une longue procédure qui dure plusieurs mois.
Et je précise aussi qu'effectivement, c'était Missak Manouchian accompagné de Mélinée et également de ses camarades de résistance. Donc, ce qu'on appelle communément le groupe Manouchian, donc à travers ce fameux procès de l'affiche rouge et qui ont été donc fusillés ensemble, ainsi que Joseph Epstein. Donc, tous ces camarades sont honorés au Panthéon à travers une inscription, donc avec leur nom inscrit. Alors, une cérémonie, elle se prépare sous l'autorité de l'Élysée, puisque, encore une fois, c'est une décision présidentielle. Et donc, il y a un comité de pilotage qui se met en place et qui rassemble des ministères, le ministère de la Culture, le ministère de l'Éducation nationale, le ministère des Armées, le Centre des Monuments nationaux, puisque le Panthéon fait partie du Centre des Monuments nationaux, et puis la préfecture de police. Et donc, ce comité de pilotage se réunit pour préparer cette cérémonie, en définir un petit peu les orientations, les séquences, et qui dépendent évidemment toujours de la personnalité, de son parcours, du contexte. Est-ce que c'est un anniversaire, puisque ces panthéonisations interviennent souvent aussi à l'occasion d'un anniversaire. Pour Missak Manouchian, c'était le 80e anniversaire de son exécution. Donc, cette panthéonisation, dans sa préparation, va dépendre aussi, on parlait de la forme tout à l'heure, de l'entrée au Panthéon. C'est pas la même préparation s'il y a translation des cendres ou s'il y a simplement une inscription ou un cénotaphe, puisque translation des cendres implique une exhumation. Donc, il y a aussi toute cette dimension-là à préparer. Et donc, toute une série de phases sur la translation des cendres, la cérémonie elle-même, et puis tout ce qu'on va faire aussi autour.
Quel est le délai, d'ailleurs, entre l'annonce officielle d'une panthéonisation et puis la cérémonie qui arrive? Il y a à peu près...
Il n'y a pas de règle. Ça peut être plus ou moins long. Parfois, il y a au moins une année. Parfois, c'est un petit peu plus court. Donc, il n'y a pas de règle.
On parle d'hommes et de femmes qui rentrent à échelle individuelle au Panthéon, des héros qui ont beaucoup compté, bien sûr. Mais vous avez cité, au cours de cet entretien, plusieurs collectifs, le groupe Manouchian, Les Justes. C'est aussi un lieu de mémoire collective. Comment gère-t-on cette tension entre les commémorations des grandes figures et puis la représentation aussi des mouvements collectifs?
Il y a cette dimension collective qui est importante et il y a beaucoup de dialectique de ce type-là au Panthéon, entre un individu et un groupe. On retrouve aussi cette dialectique autour de la question de la personne connue, la personne inconnue, avec des hommages un peu plus collectifs, par exemple aux disparus de la Grande Guerre.
Ceux de 14.
Exactement. Donc on a toute une série de dialectiques comme ça. Ce qu'il faut en permanence essayer, c'est de s'appuyer, parce que donc on parle beaucoup là des entrées, des cérémonies, mais il y a la manière aussi dont on fait vivre cette mémoire ensuite, et on a un rôle important à travers ça au Panthéon. Et donc pouvoir mettre en avant, souvent à l'occasion d'anniversaire, cette mémoire, je citais tout à l'heure, parce que c'est aussi un exemple très récent, c'est l'anniversaire de l'entrée au Panthéon de Jean Moulin, comment, j'allais dire, on réactualise, on remet en lumière ces personnalités. On le fait évidemment tout au long de l'année, parce qu'évidemment, on ne peut pas en permanence mettre en lumière tous les grands hommes et les grandes femmes qui sont honorés au Panthéon, mais donc trouver des moments, et ça peut passer par différentes formes, donc un anniversaire, et là, pour le cas de Jean Moulin, la rediffusion du discours, puisque dans son intégralité au Panthéon, qui est particulièrement symbolique, mais ça peut passer aussi par des expositions, et qui peuvent parfois rassembler plusieurs grands hommes. Je prends l'exemple récemment. Nous avons eu tout un cycle autour de la mémoire des combats contre l'esclavage, puisqu'au Panthéon, on a toute une série de figures liées au combat contre l'esclavage. Et donc, c'est une exposition qui permet à la fois d'évoquer l'histoire de ces combats et, à cette occasion, de mettre en lumière des personnalités particulières et de faire comprendre au public comment cette mémoire est présente. Donc, ça peut passer par différentes formes, ça peut passer aussi par des visites un peu insolites. On a eu l'année dernière des soirées dans les hauteurs avec des conteurs qui emmenaient le public sur l'histoire des femmes résistantes. Donc, cette tension, on la gère aussi à travers des formes très différentes d'activation de cette mémoire.
Et ça reste un lieu profondément vivant aussi, mais on en reparlera tout à l'heure. On a parlé de Jean Moulin, de Missek Manouchian. La prochaine personne panthéonisée sera l'historien et résistant Marc Bloch. L'annonce a été faite fin 2024 par Emmanuel Macron. Une annonce donc très récente. Les préparatifs ont déjà commencé?
Alors, on n'a pas encore la date précise de la panthéonisation, mais évidemment, on commence à se préparer sur les contenus. Pour avoir aussi toute une médiation qui accompagne ça. Et puis lorsque la date sera précisée, on pourra évidemment rentrer dans le vif de la préparation de la cérémonie.
Alors, j'avais une question un peu plus vaste, plus large. Comment vous voyez les défis du Panthéon demain, toujours en tant que lieu de mémoire nationale?
Le grand défi, c'est pour moi à la fois, alors évidemment, continuer à le faire connaître, à donner envie de venir au Panthéon, hein, parce que c'est vraiment important d'être dans le lieu, de le connaître et puis de comprendre. De comprendre ce que c'est, de comprendre ses itinéraires de vie. On a besoin, y compris dans des temps difficiles, de se dire que il y a des grands hommes et des grandes femmes qui, à un moment aussi difficile dans l'histoire, ont su s'élever, s'engager. Donc cette dimension de compréhension. Et puis, il y a cet enjeu de faire vivre le lieu. Vraiment, de le rendre vivant. Parce qu'on a évidemment la crypte, qui est cet espace de recueillement, avec la présence des tombes. Et puis, on a la nef, où on peut faire des choses, on peut déployer des installations artistiques. Parce que le regard des artistes, aussi, sur cette mémoire est extrêmement important. On travaille toujours sur une dimension particulière du lieu. Mais le regard des artistes a beaucoup à nous apporter pour faire vivre cette mémoire. Donc, cette question de la vitalité du lieu, de faire sentir aussi, moi je suis toujours frappée par le nombre de Parisiens, le Panthéon est à Paris, mais le nombre de Parisiens qui ne sont jamais entrés au Panthéon pour le visiter, c'est souvent assez impressionnant. Et donc ça passe aussi par des moments où ils ou elles peuvent s'approprier le lieu à travers une exposition. Il peut aussi nous arriver d'accueillir un spectacle dans la nef. C'est aussi très important, en tout cas, de faire vivre le lieu, évidemment, toujours en travaillant de manière très précise le sens, sur quel aspect on travaille. Il y a toujours un lien avec l'engagement des grands hommes et des grandes femmes. Et en tout cas, faire vivre le lieu.
Faire vivre le lieu, le valoriser aussi. Ça fait partie de l'étendue de vos missions au Panthéon. Est-ce qu'il y a une programmation en 2025, cette année, quels seront les événements phares qui auront lieu au Panthéon?
On travaille sur une exposition d'un artiste contemporain qui s'appelle Nicolas Dauban, qui a travaillé sur les hauts lieux de la mémoire nationale du ministère des Armées, et qui donc va proposer ce projet au Panthéon au courant de l'année. On a aussi régulièrement, je parlais tout à l'heure de visites insolites, on a eu récemment nos nuits au Panthéon, qui sont des visites au Panthéon dans des conditions un petit peu particulières, puisqu'elles se font à la lampe torche, et donc on fait ça tous les hivers. On a aussi des cycles de conférences régulièrement, soit à l'occasion d'anniversaires, soit pour mettre en lumière un grand homme ou une grande femme dans un cadre un peu particulier, en donnant la parole à des personnalités. On va aussi avoir un moment où on va mettre en valeur particulièrement nos décors peints, puisque donc on a une historienne de l'art qui a travaillé sur ces décors et qui publie un ouvrage aux éditions du Patrimoine prochainement autour des décors peints du Panthéon pour mieux les faire connaître et les valoriser. Donc toute une programmation de visites, d'expositions, d'installations, de conférences tout au long de l'année.
Une actualité riche. Je vous le disais dans l'introduction, vous êtes l'administratrice de ce lieu depuis 2022, fin 2022. Comment devient-on administratrice du Panthéon? Je me demandais.
Alors il n'y a pas de profil type pour administrer un lieu comme ça. Et donc, au Centre des Monuments Nationaux, où il y a de nombreux monuments, il y a des profils très différents d'administrateurs ou d'administratrices. Alors, ce qui à la fois m'intéressait, me stimulait, c'est le croisement de ces enjeux mémoriels, historiques, politiques, culturels, patrimoniaux, artistiques. Et donc, mon parcours m'avait amené à travailler beaucoup dans le domaine culturel, et y compris dans un secteur où la question des hommages est très importante, hein, puisque je me suis occupée d'art dans l'espace public à Paris, notamment. Cette question de l'hommage, de la statue, de la mémoire est évidemment également importante. Et donc, pour moi, un croisement de préoccupations et d'enjeux mémoriel, culturel, artistique, politique.
Bah écoutez, un grand merci Barbara Wolfer d'avoir répondu à toutes ces questions. Je vais vous laisser quitter l'Institut pour rejoindre votre bureau au Panthéon à quelques minutes d'ici. Merci beaucoup.
Et merci à vous.
Au revoir.
Les podcasts de l'Institut de France.